7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Leçon de sciences physiques aujourd'hui avec Gervais OMB. On va mieux comprendre la gravitation grâce à des manipulations très simples. Sachez déjà qu'il vous faudra un caillou pouvant tenir dans la main, une feuille de papier A4 froissée et roulée en boule, une feuille de papier A4 normale et une gomme. La comédienne Héloïse Auria nous racontera Petit Jean, un conte écrit par Hassan Kassi Kouyaté et publié dans Le Ventre de l'Arbre et Autres Contes d'Afrique de l'Ouest aux éditions Didier Jeunesse. Et puis nous retrouverons la chronique d'Ibrahima Girou, psychologue à Dakar, les leçons qui poussent dans le jardin de Hakima. Aujourd'hui, comment gérer le quand dira-t-on ? Une émission comme chaque jour réalisée en direct avec une équipe en télétravail, Cécile Lavolo, Sigrid Azeroual, Romain Dubrac et en studio, Nicolas Benita et moi-même. Nous attendons vos questions, vos réactions, vos messages audio ou écrit sur WhatsApp 33 1 84 22 71 71. Les enfants, on compte sur vous.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Bonjour les voisins et les voisines. Je m'appelle Sarah. Je suis en classe de CM2. Je fréquente à l'école privée les Lucioles. J'aime beaucoup l'école à la radio. Je lis bien, je retiens bien mes leçons. Je vais vous chanter une chanson pour vous dire au revoir. Nous voici tous autour de vous. Ce que vous nous avez fait, nous ne vous oublierons pas. Vous avez été pour pas un chef, mais un soutien. C'est grâce à vous que nous aurons notre bonheur.
Coucou 7 milliards de voisins, c'est Kimball et Elena du Sénégal. J'ai trop adoré l'expérience avec Monsieur Gervais. En fait, ici au Sénégal, ces genres d'expériences, on les fait en classe de 3e, seconde et des fois continuellement avec ceux qui continuent la série S. Mais les explications avec les professeurs, c'était pas tellement clair que des fois on a du mal à les retenir. Mais avec Monsieur Gervais, j'ai tellement compris que je peux le réaliser avec mes petits frères ou avec des autres, genre en jouant au professeur. Et merci beaucoup, Monsieur Gervais. Vos explications nous ont tellement aidés. Merci, salut.
J'ai bien apprécié l'expérience d'aujourd'hui sur l'eau et le sel. J'ai appris que l'eau était solvant et le sel est soluté.
Bonjour Gervais OMB.
Bonjour Chantal.
Alors je rappelle que vous avez été professeur de physique et que vous avez créé l'AESCO. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux mots ce qu'est l'AESCO ?
Oui, en deux mots, l'AESCO est une association qui fait de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire elle a pour vocation de faire des animations avec les jeunes ici ou là, c'est-à-dire aussi bien ici en France que hors de France, dans les quartiers que parfois dans les établissements scolaires, des animations en sciences et techniques pour rendre plus accessibles les sciences et accroître la pratique des sciences par tous.
Alors Gervais, on a reçu décidément beaucoup de messages pour vous. Après votre leçon sur l'osmose, Désiré de N'Djamena nous écrit « Les expériences de Gervais sont merveilleuses ». Noé à Goma nous écrit « La science est une arme redoutable, aimons les sciences ». Mélanie au Togo, avec Gervais, la science devient facile à comprendre, je l'adore. Jean à Franceville, j'aime les interventions de Monsieur Gervais car je suis moi-même amoureux de la science. J'ai un master en physique fondamentale et les expériences de Monsieur Gervais sont impeccables. Noua de Ziguinchor, j'adore le concombre. Après avoir lavé et coupé le concombre, il faut des huiles, du vinaigre, de la mayonnaise, du Jimbo et un peu de sel. Le mélange des huiles au vinaigre plus la mayonnaise, je crois bien que c'est là où la chimie peut être faite. J'ai appris à faire ce plat que j'adore à Bissau. Et puis Mohamed de Sarre nous écrit « Waouh, c'est un sujet que j'attendais depuis un beau moment, la gravitation. J'ai hâte de suivre cette leçon. »
« 7 milliards de voisins.
L'école à la radio.
Gervais, on vient d'entendre l'impatience de Mohamed. Vous nous proposez donc aujourd'hui une leçon de sciences physiques autour de la gravitation.
Oui, autour de la gravitation, qui est une leçon qui vient à l'issue d'une question posée par une auditrice de Pointe-Noire. Et nous avons pensé qu'il serait intéressant de lui répondre, bien que cette notion de gravité ou de force gravitationnelle relève en fait d'un programme de niveau beaucoup plus élevé, puisque ça part de la seconde, donc au lycée, en montant. Cependant, nous allons faire l'effort de nous adapter à notre public et d'avoir un langage adapté.
Donc, on rappelle les consignes ?
Oui. Alors, on prend bien entendu la précaution de reprendre son cahier. Hein. Jusque-là, on a toujours eu un cahier dans lequel on notait, on faisait des schémas, des croquis. Hein. La différence du dessin, le croquis, c'est juste le schéma à noter, c'est juste un petit croquis qui donne une idée de ce qu'on a voulu. C'est pas un dessin en tant que tel, donc nous allons faire un croquis et bien entendu une phrase ou deux pour rappeler ce qu'on a constaté et l'enseignement que l'on tire de tout cela.
Alors je rappelle également le matériel dont vous allez avoir besoin les enfants. Donc un caillou pouvant tenir dans la main, une feuille de papier A4 froissée et roulée en boule, une autre feuille de papier A4 et une gomme. Gervais, si on n'a pas de gomme, comment on fait ?
On peut prendre un taille crayon ou un crayon tout simplement.
Voilà. Alors maintenant Gervais, je vous laisse expliquer la manipulation.
Alors, l'expérience va consister à faire ceci. On va prendre dans les mains, hein, les mains de main, le caillou, un petit caillou, la gomme, et puis la boule de papier roulée en boule. À défaut, bien entendu, de la gomme, on prend un crayon. On tient tout ça dans la main ou dans les mains, et puis nous allons lâcher l'enfant.
Et est-ce qu'on doit être debout quand on lâche tout ? Est-ce qu'on peut le faire assis ? Comment ?
Oui, ce serait bien d'être debout. Parce que si on est debout à la hauteur des épaules, on lève un peu les bras, à la hauteur des épaules environ, on lâche tout ça. Et on fait un constat. Nous allons laisser les jeunes réaliser l'expérience.
Voilà, donc ils prennent le caillou, la gomme et la boule de papier et ils lâchent tout ensemble. Pourquoi est-ce que vous dites souvent qu'il vaut mieux être deux quand on fait des manipulations ?
Oui, parce que pendant qu'il y en a un qui manipule, l'autre peut éventuellement prendre des notes, mais commencer à faire le croquis. Et enfin, nous sommes bien en science et dans les laboratoires de chimie, de physique ou partout on fait des sciences, en général on travaille par binôme, on travaille à deux. Donc il est bon, dès à présent, de prendre l'habitude de manipuler à deux.
D'accord. Bon, alors pendant qu'on parlait, je pense que les enfants ont pu réaliser la manipulation. Alors maintenant, on va passer au constat. Qu'est-ce qu'on constate, Gervais ?
Alors, donc, dans un premier temps, on a bien fait le constat qu'on le lâchait, c'est-à-dire on le laissait sans vitesse initiale. Hein, on l'avait dans la main, on lâche, ça tombe, il n'y a pas de vitesse au départ, donc on lâche. Et on voit que ça tombe. Alors vous me direz, c'est une évidence. Soit, mais les sciences, c'est ça aussi, c'est de constater certaines évidences. Donc, les trois objets sont attirés vers le sol en même temps. Ils tombent. Alors, je demanderai d'observer la trajectoire de ces objets. Eh bien, je vais lentement pour laisser le temps de bien réfléchir à cela. On va voir que ça tombe pratiquement au pied de l'expérimentateur ou du jeune ou de la personne qui a fait l'expérience. On voit donc que la trajectoire, elle est verticale, dirigée de haut vers le bas. Ça a l'air banal, mais c'est déjà ce qui est important à noter. Donc, nous noterons que la trajectoire de ces objets est verticale au lieu où on se trouve, c'est-à-dire ça tombe pratiquement à ses pieds.
Et alors à quoi va ressembler le schéma ?
Eh bien, le schéma va ressembler à ceci. On va dessiner sur la feuille de papier deux ou trois petits cercles qui ressembleraient à des patates. La première représentant par exemple le caillou, qui n'a pas de forme spécifique. La deuxième représentant la boule, elle aura la forme d'un cercle. Et puis la gomme qui a une forme là aussi légèrement sphérique, comme en gros une patate. Il n'est pas important de s'appliquer sur la forme. Par contre, alors nous aurons trois différents cercles ou patates, si vous voulez. Et nous allons faire donc mettre une flèche qui partira du centre de chaque objet vers le bas. Et en dessous, c'est-à-dire la flèche va mesurer environ, allez, on va dire 3 cm, et nous aurons un trait horizontal qui indiquera la Terre. Alors ça peut être un peu incurvé, juste pour montrer que nous avons notre gomme qui se dirige vers le bas, de haut en bas et verticalement. Nous avons là, alors on met une flèche pour dire le sens dans lequel nous allons. Une fois de plus, tout ça est bien mesuré en ce sens que j'évite de prononcer certains mots que nous verrons beaucoup plus tard quand ils seront au lycée. J'ai dit que la flèche va partir du centre de chaque objet, diriger vers le bas, du côté du trait horizontal, montrant bien que ça part du haut en bas, et cela en ligne droite.
Alors, qu'est-ce qu'on en déduit ?
Eh bien, ce que nous venons de mettre en évidence ici, c'est la pesanteur, c'est-à-dire le fait qu'il existe, comme ça, une force, qu'on appelle donc la pesanteur, qui va faire en sorte que quand on lâche un objet, cet objet est dirigé vers le bas, vers la terre, vers le sol. Et si on s'est bien observé, on devrait constater que ces trois objets tombent en même temps.
Quelle que soit leur taille et quel que soit leur poids.
Surtout, quelle que soit leur masse.
Alors,
quelle que soit leur masse, je n'ai pas dit le poids, je n'ai pas prononcé ce mot. C'est vous, Chantal, qui le prononcez. J'ai dit quelle que soit, je vais dire leur grosseur, leur masse, ces trois objets tombent en même temps. Voilà. Ce qui veut dire la chose suivante, c'est que nous avons ici mis en évidence le phénomène de gravité, la force gravitationnelle, qui fait que quand on lâche un objet d'une certaine masse, eh bien cet objet tombe vers la Terre, vers le sol. Et ça nous permettra de définir cette gravité. C'est quoi la gravité ? C'est la force d'attraction que la Terre va exercer sur tout corps.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement pourquoi vous préférez utiliser le mot masse plutôt que le mot poids ?
Parce que la masse, elle ne va pas changer. Elle va rester la même. Tandis que le poids est une force. Je l'ai dit depuis le début. J'ai parlé plutôt de pesanteur. Et cette la pesanteur, je l'ai dit, c'est une force d'attraction que la Terre va exercer. Alors que la masse, c'est autre chose. C'est la quantité de matière de cet objet. C'est pour ça que je ne voulais pas dire de gros mots.
D'accord.
La quantité de matière. C'est-à-dire que, on le verra un peu plus tard, la matière, la masse, elle ne va pas changer. Mais le poids, lui, va changer parce que c'est une force d'attraction. Cette force d'attraction va dépendre de deux corps. Puisque Chantal vous insistez, je vais être obligé de dire ceci. La gravité, c'est cette force d'attraction qui va exister entre deux corps. En fait, une force que deux corps vont exercer mutuellement l'un sur l'autre. Vous prenez deux objets de masse donnée, chaque objet va avoir une action sur l'autre et mutuellement. On dit que c'est de l'interaction. L'un agit sur l'autre, l'autre agit sur l'un. Cette action mutuelle, l'un sur l'autre, c'est une interaction. Et c'est cette force d'interaction qu'on appellera donc la force de gravitation. Alors on va voir la gravité. Et c'est ce que nous allons essayer de voir tout au long de ce temps. Alors,
est-ce qu'on passe à l'expérience numéro 2 ?
Oui, donc on a bien fait le schéma, le dessin, où nous voyons bien les objets qui tombent. Nous avons une ligne verte horizontale qui indique la Terre et on a donc défini la trajectoire, une verticale, et nous avons également le point d'application sur l'objet et le sens dans lequel il tombe. L'expérience numéro 2.
Alors, qu'est-ce qu'on prend comme matériel cette fois ?
Cette fois-ci, on va prendre la feuille froissée en boule et la feuille normale à 4. Dans un premier temps, une fois de plus, on laisse tomber la feuille froissée en boule à hauteur de son épaule environ. On la prend, on la lâche, c'est-à-dire sans vitesse initiale, on observe, il tombe. On dit donc, comme tout à l'heure, que cette boule est en chute libre, parce que je ne l'ai pas lancée, je ne l'ai pas jetée. Elle est tombée parce que j'ai lâché. Et vous avez bien compris que dès que je lâche, eh bien ça tombe. Ça ne reste pas dans mes mains. Eh bien, nous sommes là en chute libre. Ça va vers le sol, pareil, de haut en bas, verticalement du lieu où je me trouve. Je vais essayer de faire la même chose avec la feuille de papier. Je prends la feuille de papier à 4, je la mets au même niveau que j'avais la feuille, la boule, la feuille de froissée en boule, puis je lâche et on observe.
Et alors qu'est-ce qu'on remarque ?
Eh bien, on remarque que la feuille de papier va virevolter de gauche à droite, mais va retomber pratiquement au même endroit que la boule tout à l'heure. C'est-à-dire, la trajectoire, finalement, elle reste la même, sauf qu'elle a tourné un peu à gauche, à droite, elle est venue retomber comme si elle devait tomber tout droit.
Donc, on va laisser un petit peu de temps peut-être aux enfants pour faire l'expérience à leur tour.
Fait un croquis, ils ont bien noté, la même feuille de papier qui était froissée en boule, elle tombe tout de suite quand on la lâche, tandis que l'autre feuille de papier qui n'a pas été froissée va tomber lentement, va tomber avec plus de retard. Je voulais simplement faire remarquer que cette fois-ci, cette feuille de papier a été ralentie par les forces de frottement dans l'air.
Et qu'est-ce qui se passe si on laisse, Gervais, qu'est-ce qui se passe si on laisse tomber en même temps la boule de papier, froissée donc, et la feuille ?
Ah, ce serait intéressant de le faire, justement, Chantal. Et ce serait bien que les élèves le refassent.
Alors, les enfants, vous nous avez entendus. Donc, vous reprenez la feuille de papier froissée, la feuille A4 qui n'est pas froissée. Donc, les deux en même temps, et vous les laissez tomber de la hauteur de votre épaule. Allez-y.
Eh bien voilà, on peut remarquer que, eh bien, ils vont tomber à la verticale de l'endroit où ils sont, mais la feuille de papier non froissée tombe en retard, parce qu'elle est ralentie par les forces de frottement de l'air.
Alors qu'est-ce qu'on a voulu démontrer avec cette expérience, cette deuxième expérience, Gervais ?
On a voulu démontrer simplement qu'il y a des forces de frottement dans l'air qui empêchent à cette feuille de papier de tomber aussi rapidement. Et en d'autres temps, si vous osiez, vous m'auriez dit, mais si j'avais utilisé une bille en bois et une bille en acier, mais on est très curieux de constater que ça tomberait en même temps.
Alors, qu'a priori, on pourrait se dire que la bille en plomb va tomber plus vite que la bille en bois.
Oui. Mais ce sera lié aux forces de frottement. C'est pour ça que pour bien le montrer, on le fait généralement dans un tube où on a enlevé l'air. On appelle ça dans un tube où il y a du vide. Et si on pouvait le faire là-dedans, on verrait que ça tomberait en même temps, aussi bien la bille d'acier, la bille en bois et même une plume. Ils vont avoir, oui, c'est très curieux. J'en ai le pas. Mais ça, si vous permettez, on en reparlera plus tard en terminale.
D'accord. Alors, donc, allons un peu plus loin, Gervais. Nous savons que la Terre est une sphère. Alors, qu'est-ce qu'on imagine maintenant ?
Ben, on peut imaginer que cette expérience qui a été demandée ou qui a été suscitée par quelqu'un qui est à Pointe-Noire, c'est-à-dire à l'équateur, puisque Pointe-Noire, le Congo, est à l'équateur, c'est-à-dire à peu près au milieu du niveau de la rotondité de la Terre, eh bien, on pourrait imaginer que la même expérience, et vous le faites bien, puisque RFI est écouté partout, à Abidjan, à Pointe-Noire, à Paris, et même
au Pôle Nord.
Au Nord. Eh bien, on va se rendre compte qu'on pourrait demander à nos auditeurs de le faire à Pointe-Noire, un peu plus haut, à peu près plus de 1000 km à Abidjan, encore plus haut au niveau de Paris, et encore plus haut au Pôle Nord.
Et alors, qu'est-ce qu'on devrait observer, du coup ?
Eh bien, de la même façon, ça tomberait au pied de l'expérimentateur. C'est-à-dire, vous lâchez, ça tombe pratiquement à vos pieds, en fonction du niveau où vous la laissez. Donc, vous lâchez, eh bien, ça tombe à vos pieds. Que ce soit à Abidjan, à Pointe-Noire, au Pôle Nord, à Paris, vous lâchez l'objet, ça tombe à vos pieds. Pourtant, la Terre est ronde.
Mais donc, l'objet, voilà. Mais donc, c'est le centre de la sphère qui attire l'objet, en fait.
On est bien d'accord. Donc, ces objets sont attirés par le centre de la sphère, c'est-à-dire le centre de la Terre. Donc, finalement, la pesanteur, ce poids, c'est une force d'attraction que la Terre, ou plutôt cette grosse masse que nous avons, qui est la Terre, va exercer sur les petits objets qu'il y a autour, notamment la boule, la gomme. Et tout ce qu'il y a autour de la Terre, ces objets sont attirés et sont plaqués au sol. Voilà, Chantal, la raison pour laquelle nous arrivons à tenir sur Terre, enfin nous maintient debout sur le sol, qu'on soit à l'équateur où on pourrait avoir l'impression qu'on a la tête
en bas,
dans l'espace ou de travers,
ben
ou bien au pôle sud où on aurait la tête en bas.
Alors qu'on est tous, voilà, debout sur nos deux pieds.
Voilà.
On passe à l'expérience.
C'est intéressant dans cet exercice.
Alors Gervais, on passe à l'expérience numéro 3.
Oui, alors, donc jusque-là, nous avons laissé une boule de papier froissé sans vitesse. On pourrait imaginer que l'on lâche avec une vitesse. On dit qu'on la lance. Hein. Au début, vous avez laissé tomber la boule de papier froissé. Elle est tombée à vos pieds, ou pratiquement en tout cas à un endroit qui est juste devant vous, chute verticale. Cette fois-ci, on va changer un peu. On va le lâcher, mais avec une vitesse initiale, avec une petite vitesse. On appelle ça lancer, faire un jet. On le lance. Et on constate que la boule va tomber, allez, à 1 ou 2 mètres plus loin.
Alors, on laisse les enfants lancer la boule.
Et on voit que la trajectoire, cette fois-ci, n'est plus verticale. Ça fait une espèce de courbe, une courbure. Hein, c'est comme quand vous tapez dans un ballon, vous voyez, ça fait une espèce de courbure. Je ne voudrais pas prononcer le mot, mais ça fait une courbe pour tomber.
Donc ça veut dire que plus la vitesse impulsée est grande, et plus
oui.
La boule va loin, c'est ça ?
Oui, c'est ça, elle va loin. Eh bien, elle va loin parce que quand vous lancez avec une force importante, elle tente d'aller horizontalement. Mais la force de l'attraction de la Terre la tire vers le sol. Elle finit par se courber et tomber. Un peu comme à la verticale de tout à l'heure. À tout à l'heure, vous aviez à la verticale, plutôt vous aviez votre boule, sans vitesse initiale, vous lâchez, elle tombait à vos pieds. Mais là, cette fois-ci, vous imprimez une force qui lui donne une vitesse.
Alors Gervais,
et vous allez voir,
oui.
Ça va tomber plus loin. Et plus la force sera importante, plus ça tombera loin, parce que la Terre, elle va tenter de résister à l'attraction de la Terre, et la Terre la tire quand même, et elle tombera à 2 mètres, à 3 mètres, à 5 mètres, à 10 mètres plus loin.
Alors Gervais, il nous reste 4 minutes, et si on allait encore plus loin ?
Alors on va rêver. On va rêver, Chantal, que vous êtes tellement forte, vous avez imprimé une vitesse tellement grande, que vous êtes capable de lui donner, allez, on va rêver, 28 000 km à l'heure, à votre, boule de papier.
Oui, il me faudrait beaucoup,
bien,
beaucoup,
si
beaucoup de force.
Hein. Ça, eh bien, la Terre, elle aura du mal, l'attraction de la Terre aura du mal à l'attirer. Eh bien, votre boule de papier va se mettre à tourner autour de la Terre. Vous allez la mettre en gravitation, ça y est, on a trouvé le mot. On va la mettre en gravitation autour de la Terre. Ça va se mettre à tourner autour de la Terre. Et cet objet va être satellisé.
Donc c'est ce qui arrive aux satellites, aux fameux satellites dont on parle dans la vie de tous les jours. Hein. Par exemple, les GPS fonctionnent grâce aux satellites qui sont en gravitation.
Le GPS que vous avez dans votre voiture, je vous en prie.
Oui, les satellites donc, qui sont en gravitation, qui tournent au-dessus de nos têtes, très très haut.
Voilà, et qui vous permet de recevoir aussi bien des informations sur la navigation que faire fonctionner votre téléphone. On peut se parler au téléphone grâce aux satellites qui sont au-dessus. Et ces satellites, ben, c'est grâce justement plutôt en application à cette loi de la gravitation. Et comme elle est valable pour beaucoup de choses, on dit de gravitation universelle. C'est pas valable que pour la Terre, c'est également valable pour d'autres planètes, d'autres objets, comme la Lune. La Lune, c'est une masse qui a été lâchée autour de la Terre, et comme elle était à une vitesse de plus de 28 400 km à l'heure, elle n'a pas pu tomber sur Terre, et elle tourne, et elle tourne, et elle est donc en satellite autour de la Terre. On dit c'est le satellite naturel de la Terre.
Et alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on est sur la Lune ?
Eh bien, quand on est sur la Lune, vu qu'on est assez loin, on n'est plus soumis à la force de la Terre comme nous actuellement. Eh bien, on a une masse qui est beaucoup plus petite. Eh bien, sur la Terre, vous allez avoir un poids pour vous qui sera plus faible. C'est-à-dire, on pèsera 6 fois moins sur la Lune que sur la Terre. Toujours la gravitation. Et du coup, eh bien, cette difficulté à être aussi lourd sur... Enfin, ce n'est pas une difficulté. Le fait de ne pas avoir le même poids sur la Lune que sur Terre entraîne une difficulté pour marcher.
Et on le voit bien, on le voit bien avec les cosmonautes ou les astronautes quand ils marchent sur la Lune.
Oui, c'est bien ce qui a inspiré d'ailleurs Michael Jackson pour sa danse Moonwalk, marcher sur la Lune. Il n'est pas évident de marcher sur la Lune. Il a estimé qu'il avait besoin de marcher de cette façon-là. Il en a fait une danse que nous connaissons tous.
Voilà. Et donc, les enfants, vous allez pouvoir vous entraîner à danser le Moonwalk juste après la leçon. Juste en un mot, Gervais, qu'est-ce qu'on doit exactement à Newton ?
Mais Newton, c'est ce monsieur qui a justement réussi à résumer ces remarques-là, parce qu'on l'avait tous constaté, et lui, il a été le premier à expliquer de façon simple la chose suivante. Deux corps de masse donnée vont avoir une action mutuelle l'une sur l'autre en fonction de leur masse et en fonction de leur distance. Cette loi qu'il a sortie s'appellera la loi de Newton. C'est elle qui explique, qui explique justement la pesanteur, et elle est respectée quand nous essayons de quitter la Terre, d'envoyer des fusées, de mettre des satellites autour de la Terre et de faire un certain nombre de choses qui expliquent par exemple la rotation de la Terre autour du Soleil.
Merci beaucoup Gervais OMB, on pourrait continuer des heures à vous écouter. Vous aurez sûrement l'occasion de nous reparler de pesanteur, de gravitation, de vitesse, de satellite. Tout ça est tout à fait passionnant. Au revoir Gervais.
Au revoir Chantal.
Où vont les mots quand ils tournent autour du pot, quand ils cherchent le bon endroit pour arriver jusqu'à toi, quand ils se perdent et reviennent, quand ils sont là éternels. Où vont les mots? Ceux qui glissent sur ta peau, qui ne font plus écho, ceux qui se jettent contre un mur que tu prends dans la figure. Où vont les mots? Ceux qui s'imposent, dont on dispose, ceux qui nous soignent, ils nous touchent en plein cœur. Quand ils s'en donnent à cœur joie, j'en vois de toutes les couleurs. Et quand ils restent murmures, qu'ils ont la peau dure, où vont les mots? Où vont les mots quand ils nous déshabillent? Quand ils se mettent à courir au bout du stylo habillé? Quand ils savent qu'on les espère? Quand ils nous jettent la pierre? Où vont les mots? Ceux qui résistent, qui se désistent, ceux qui résonnent et empoisonnent.
Où vont les mots? La grande Sophie sur RFI. C'est l'heure de la récré.
Je vais inventer une histoire.
Petit Jean, un conte écrit par Hassan Kassi Kouyaté. C'était l'histoire de Petit Jean. Petit Jean était un homme paresseux. Il était très, très paresseux. Il était très, 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 très paresseux. Pourtant, Petit Jean avait une bonne mère et une bonne femme. L'histoire ne dit pas ce que c'est une bonne mère et une bonne femme. Petit Jean était marié avec sa femme depuis 25 ans. Il n'avait pas d'enfant. C'est difficile d'avoir un enfant quand on passe son temps à dormir, à manger. Toujours est-il qu'un matin, la maman de Petit Jean se réveille aveugle. Elle a perdu la vue pendant la nuit. La femme de Petit Jean allait travailler pour 3 personnes. Elle a travaillé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. 6 mois plus tard, elle vient et dit ceci.
Petit Jean ! Petit Jean, ça fait combien d'années que nous sommes mariés, hein ? Ça fait combien d'années que nous sommes mariés et c'est moi qui passe mon temps à aller travailler pour toi? Et toi, tu passes ton temps à dormir, à manger, à dormir, à manger? Je te jure, Petit Jean, si tu ne vas pas chercher du travail demain, je m'en vais!
Chez nous comme ailleurs, quand on insulte, ce n'est pas bien. Mais quand tu fais, c'est pire que tout. Ça veut dire que la personne ne vaut rien. Petit Jean était touché par la remarque de sa femme. Il est sorti pour aller chercher du travail. Il fait le tour de la maison. Derrière la maison, il voit un arbre. Il va à l'ombre de l'arbre et s'endort. Tard dans l'après-midi, il s'est réveillé. Il n'est pas allé chercher du travail. Il connaît sa femme. Il sait que ça peut chauffer. Il a une idée. Il prend la terre. Il met la terre sur ses pieds. Il vient devant sa femme. Il dit à sa femme... « Regarde, j'ai marché toute la journée. J'ai tellement marché que mes pieds sont rouges de poussière. Mais je n'ai pas trouvé de travail. » Si les hommes connaissent leurs femmes, les femmes connaissent très très bien leurs hommes.
« Petit Jean ! Tu crois que je suis idiote, Petit Jean ? Tu crois que je suis idiote ? Demain, si tu ne vas pas chercher du travail, je retourne chez mes parents !»
Petit Jean aimait sa femme. Le lendemain... Il a fait toutes les portes du village pour chercher du travail, mais il n'a pas trouvé de travail. Tard dans l'après-midi, en revenant chez lui, il voit l'arbre et il va s'asseoir à l'ombre de l'arbre. En s'asseyant à l'ombre de l'arbre, il dit « Qu'ai-je fait pour mériter tant de malheur ?» À peine il a dit ces paroles qu'une voix lui dit
« Ah bon, toi, Petit Jean, tu oses dire que tu es malheureux ?» Alors que tu as une bonne femme et une bonne mère.
Il cherche d'où venait la voix. La voix lui dit
« C'est pas la peine de chercher. C'est moi, Dieu, qui te parle. Ah, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Tu pourras faire un vœu et ton vœu sera exaucé. Attention, vous, les êtres humains, on vous connaît. Quand on vous donne la main... Vous voulez le bras. Tu ne peux pas faire le vœu de faire plusieurs vœux. Tu ne pourras faire qu'un seul vœu. Petit Jean dit immédiatement à Dieu : « Je veux être riche. » Dieu lui dit : « Oh, doucement, doucement, oh ! Vous, les êtres humains, vous êtes toujours pressés. Admettons que je te donne la richesse. Tu fais un pas, tu meurs. Elle te servira à quoi ?»« Ah oui, c'est vrai, » dit Petit Jean. Dieu demande à Petit Jean de partir à la maison, de réfléchir et de revenir le lendemain et lui dire ce qu'il aura décidé. Petit Jean va à la maison en chantant. Et il chante, il chante, il chante, il chante et il danse. Il danse et il chante et il arrive à la maison. Sa femme, qui le voit arriver en chantant, pense qu'il a trouvé du travail. Et il dit à sa femme que non, qu'il a trouvé mieux, qu'il a rencontré Dieu. La femme lui dit : « Tu as rencontré Dieu ? Et puis quoi encore ? Si toi tu as rencontré Dieu, moi je suis le pape, c'est ça ?» Il dit : « Non, je t'assure, j'ai rencontré Dieu. Et Dieu a même dit que je pouvais faire un vœu et que le vœu sera exaucé. » La femme lui demande : « Ah, j'espère que tu as demandé un enfant. Ça fait 25 ans que nous sommes mariés et nous n'avons pas d'enfant. » Petit Jean n'avait pas pensé à ça. Pendant qu'il parlait, vous vous rappelez de la maman qui était aveugle. C'était un détail de l'histoire, maintenant ça prend toute son importance. Car la maman arrive, elle dit :
« Ah, tas d'ingrats que vous êtes ! Surtout toi, Petit Jean ! À la mort de ton père, je t'ai élevée toute seule. Je suis allée travailler pour toi. Je suis devenue aveugle en allant travailler pour toi. Maintenant, tu peux faire un vœu et au lieu de faire le vœu pour que je retrouve ma vue, vous parlez d'un enfant !»
Ça se compliquait pour Petit Jean. Petit Jean voulait être d'abord riche. Dieu lui a parlé de la longévité, sa femme lui a parlé d'un enfant et sa mère de sa vue. Petit Jean ne pouvait faire qu'un vœu et pas le vœu de faire plusieurs vœux. Il a réfléchi toute la nuit. Le lendemain, on dit que la nuit a beau durer, le jour finit par arriver. Le lendemain, Petit Jean est parti voir Dieu. Et il a fait son vœu à Dieu. Si vous êtes à la place de Petit Jean, qu'est-ce que vous allez choisir ? Allez, je vais vous dire ce que Petit Jean a dit. Petit Jean a regardé Dieu dans les yeux. Et il a dit : « Dieu, faites que ma mère voie mes enfants manger dans des assiettes en or pendant très longtemps. » Ce qui a été fait.
Petit Jean, un conte écrit par Hassan Kassi Kouyaté, raconté par Héloïse Auria et publié dans Le Ventre de l'Arbre et autres contes d'Afrique de l'Ouest aux éditions Didier Jeunesse. Vous pouvez retrouver les contes que vous avez entendus dans l'émission sur le site de RFI et en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Le podcast, c'est 7 milliards de voisins, des contes à écouter.
7 milliards de voisins. On est ensemble.
Ibrahima Giroud, bonjour.
Oui, bonjour Chantal, comment allez-vous ?
Très bien, je rappelle que vous êtes en ligne de Dakar, vous êtes psychologue. Alors dans les leçons qui poussent dans le jardin de Hakima, nous allons parler du regard des gens sur notre façon d'éduquer nos enfants. Quelles leçons les plantes nous réservent-elles aujourd'hui, Ibrahima ?
Quand je me suis mis à monter pièce par pièce mon jardin sur ma terrasse, très peu de personnes, y compris mon épouse, étaient convaincues ni de la possibilité de le faire, ni de l'importance d'avoir un jardin quand on vit en appartement. Donc j'ai fait l'objet de gentilles moqueries, hein, comme vous savez, à chaque fois que j'enfilais mes habits nobles de jardinier pour en troquant mes habits un peu de cadre. Et j'avais déjà en tête cette sagesse qui dit qu'une nouvelle idée est d'abord moquée, puis combattue avant d'être adoptée. Donc c'était clair pour moi, il fallait que je tienne bon et continuer à investir mon temps, ma créativité, les moyens qui étaient les miens pour avoir un jardin tel que je le voulais.
Alors on en est où avec le jardin aujourd'hui? Est-ce que les gens se moquent toujours de vous, même si ce n'était pas méchant, hein, comme vous le disiez?
Oui, non, disons qu'aujourd'hui, on a vraiment un jardin décent, le jardin a pris forme, on s'en nourrit régulièrement. Les enfants ont même remarqué que les salades, le bissab, le gombo, et vous voyez tous ces légumes qui poussent aujourd'hui dans notre jardin, ont un meilleur goût que quand nous les achetions dehors. Et je pense que c'est lié beaucoup au fait qu'également c'est le produit de nos propres mains. Et, mais ce n'est pas que cela. On fait également du thé avec les feuilles qui poussent dans le jardin de Hakema. On a tant de légumes que l'on partage avec nos voisins immédiats et quelques amis qui trouvent que les salades sont beaucoup plus croquantes, par exemple. Et vous savez, Chantal, le jardin est devenu également tellement riche qu'on y apprend des choses et des leçons de vie que nous partageons, comme vous le savez, chaque semaine avec les 7 milliards de voisins. La petite idée est devenu un univers de bonnes pratiques parentales, un univers de bonnes choses qui servent au-delà de la famille.
Et alors, si vous aviez écouté les moqueries des gens, vous ne seriez pas allé jusqu'au bout, j'imagine. C'est d'ailleurs vrai si on en vient à l'éducation des enfants. Hein. Quelquefois, on est un peu sous la pression du regard des autres, de ce qu'on appelle le « quand dira-t-on », surtout quand on vit en communauté, Ibrahima.
Tout à fait Chantal. Beaucoup parmi les femmes que je reçois en consultation par exemple, qui éduquent parfois seules leurs enfants, croulent sous le poids du regard de la société et des amis, des parents, de la belle famille, même parfois de l'ex-belle famille. Elles sont tétanisées à l'idée qu'on leur reproche d'avoir mal éduqué leurs enfants si elles ne les éduquent pas comme tout le monde le souhaite, de les avoir trop gâtés et d'avoir trop laissé faire. Elles les frappent parfois, voyez-vous, ou souvent, car c'est plus acceptable pour la société. Et sans toutefois elle-même être sûre si c'est mieux pour l'enfant ou bien même si c'est vraiment ce qu'elle croit au fond d'elle-même. Et ça les épuise évidemment. Elles sont épuisées de tant de contradictions quand je les reçois. Et souvent en désespoir de cause qu'elles viennent en consultation. Je ne vais pas vous mentir, M. Giraud, qu'elles me disent « je l'ai même frappé ». Quand vous entendez ça, c'est que c'est à contre-cœur qu'on le fait. Et je ne sais plus combien une fois j'ai entendu ce refrain, Chantal. Ce sont pourtant des parents qui sont eux-mêmes contre les châtiments corporels et qui ont recours et qui du coup se retrouvent seuls face à leur conscience, bien sûr, et à l'incompréhension de l'enfant face parfois à des punitions parfaitement disproportionnées, juste pour complaire au regard de la société.
Alors comment en arrive-t-on à cet extrême et surtout comment s'en sortir ?
Et il faut d'abord dire, Chantal, que ce que je vous raconte là est tout sauf anecdotique. C'est la réalité de la majorité des parents, en tout cas, que j'ai reçu en consultation. Ensuite, pour les causes, c'est l'hypersensibilité, je crois, au regard de la société. Et c'est cela dans l'éducation de la fille depuis le bas âge, avec des normes, éducation qui l'emprisonne dans un rôle un peu hypocrite pour plaire et complaire, paraître sans être. C'est pour cela que je lance un appel aux voisins, aux voisines qui nous écoutent, au papa d'abord. Le papa voit partout quand ses yeux fonctionnent correctement. Mais même quand sa vue baisse, il voit toujours ce qu'il y a dans le cœur de sa fille. C'est ce qu'on nous apprend, nous. Donc, on appelle donc au papa pour relancer le dialogue familial, extirper et expulser hors de la famille, vraiment, toute forme d'hypocrisie qui donnerait trop d'importance au regard des autres. Ça me semble vraiment primordial. Ensuite, au moment où aux parents, de manière générale, je vous dirais simplement que vos enfants sont votre jardin. Mettez-y ce que vous pensez être les meilleures choses. Écoutez et suivez votre cœur. Si vous vous trompez, ok, c'est la vie. Il n'a jamais écrit quelque part que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous tromper. Donc rectifiez simplement et continuez le chemin de l'éducation. Et qui a jamais dit qu'un parent devait être parfait? Ne laissez pas ce que les gens disent prendre le dessus sur ce que vous savez alors que votre enfant vous regarde et que lui est tout petit, il vous pardonne. Plus que ce que la toute-puissante société ne semble pas disposée à tolérer en vous. Si vous avez peur du candidaton, vous ne réussirez jamais votre jardin. Vous n'aurez pas une bonne récolte et vous aurez alors honte de partager vos fruits et vous n'aurez pas d'histoire à raconter, ni quelqu'un pour vous écouter. Ce serait cela le vrai échec, le vrai gâchis. La seule chose que vous aurez alors, c'est que la société sera encore là pour vous critiquer et peut-être que votre enfant sera encore là pour vous pardonner.
Mais Ibrahima, aujourd'hui que les filles sont quand même davantage scolarisées, est-ce que les choses commencent à bouger? Est-ce qu'en grandissant, quand elles deviennent femmes, épouses, mères de famille, elles se soucient un peu moins du qu'en dira-t-on?
C'est toujours hyper présent, parce que les femmes que je reçois en consultation, c'est des femmes intellectuelles, c'est des cadres qui viennent et qui ont du mal vraiment à se libérer de ce candidaton, de ce regard social et qui sont dans ces contradictions quasiment fondamentales dont je suis en train de vous parler. Donc ça crée énormément de souffrance, c'est pesant ça veut dire, c'est très très pesant ce regard.
Ibrahima, la question de la semaine.
Merci Chantal. Voici ma question pour nos amis, les voisins et les voisines. Combien de personnes passent à côté de leur vie en tentant de vivre telle que les autres pourraient l'accepter? Combien d'enfants se sont ratés pour les mêmes raisons?
Merci beaucoup Ibrahima Giroud. Bonne journée à Dakar, on vous retrouvera la semaine prochaine.
Au revoir Chantal, au plaisir.
Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Cécile Lavolo, Sigrid Azeroual, Romain Dubrac en télétravail et ici en studio avec moi Nicolas Benita. Demain, nous retrouverons l'enseignant Gérard Sansfaute pour une nouvelle leçon de mathématiques. Les enfants, nous attendons toujours vos messages, vos réactions, vos suggestions, vos poésies, vos chansons. Sur WhatsApp, vous connaissez le numéro 33 1 84 22 71 71. À demain et portez-vous bien.
De voisins. C'est fini.
Bonjour.